Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à tous et à tous. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire le chemin inverse, c'est-à-dire passer de la femme de ville à la femme rurale, vivre ces deux expériences en une seule vie pour tout remettre en question et se renouveler. On y va pour les détails avec ma femme d'aujourd'hui.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Yousfiziad, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Mais avec plaisir.
Alors,
merci
vous êtes
à vous de m'avoir invité.
Un plaisir, Rita. Vous êtes où exactement? Vous vous trouvez maintenant même?
Là, tout de suite. Alors, je suis dans un village qui s'appelle Imlres, à la vallée des Eitbougmel. On est à peu près à 1h30 d'un village et on est à 2000 mètres d'altitude.
Il fait froid?
Il fait froid. On doit avoir moins 1 là ce matin.
C'est vrai? Il neige?
Pas encore. On voit la neige sur les sommets qui nous entourent, mais pas encore sur le village. On attend la neige, justement.
Alors, une autre question. Pour notre communauté, vous êtes en vacances ou vous êtes installée là-bas?
Je suis installée ici depuis 2 ans maintenant.
Voilà, donc c'est votre maison.
Ah oui, c'est mon adresse sur ma carte, ma nouvelle pièce d'identité marocaine. J'ai l'adresse de la vallée des Mlas.
Alors, pour y accéder, vous faites comment en fait? C'est quoi votre itinéraire?
Vous venez jusqu'à Zilal, donc soit par via l'autoroute jusqu'à Bnimlel et ensuite route nationale jusqu'à Zilal, ou là jusqu'à Stat et après la route nationale jusqu'à Zilal. Une fois arrivé à Zilal, on a 1h30 de route de montagne, donc on monte et on redescend après pendant 1h30.
Ok. Alors, moi je suis quand même intriguée. Qu'est-ce qui a amené cette spécialiste en électronique embarquée, système de communication? Parce que je pense que ce sont vos études à vous. Et je pense que vous croyez vraiment dans ces études, puisque vous êtes allé jusqu'au master, à aller s'installer dans cette région reculée du Maroc.
Moi, je vivais en France avec ma petite famille. J'ai passé à peu près 18 ans en France. Dans le monde de l'entreprise. J'avais décroché mon bac au Maroc. Ensuite, je suis partie en France faire mes études. Je me suis installée. À la naissance de ma première fille, il y a eu une espèce de déclic dans ma tête. Parce qu'après, il y a eu la crèche, garderie, école. Et je ne me voyais pas vivre dans un rythme comme ça de boulot, dodo, métro toute ma vie. Et là, je commençais à penser à rentrer dans mon pays, le Maroc. Mais je ne voulais pas retravailler encore dans l'électronique. Je voulais me reconvertir dans autre chose, quelque chose qui ait du sens. Me réveiller tous les matins avec une grosse envie d'être au service de l'autre et de partager des valeurs avec les enfants, surtout au Maroc. Donc j'ai pensé à l'Atlas. Ça, c'est par amour de la montagne. J'aime beaucoup la montagne et les paysages en haute Atlas.
C'est votre région d'origine, justement?
Pas du tout, je suis casablancaise, mon mari est casablancais, mais on aime beaucoup la montagne.
Vous ne voyez pas revenir à Casa?
Non, on a essayé, on a fait une petite transition par Mohamedia. Casa, c'était trop dur pour nous.
Ouais.
C'était un peu hard, le rythme est trop stressant pour nous. On a passé le temps de s'organiser dans notre tête, de penser au projet, etc. C'était un passage de 1 an et demi. Via Mohamedia, et après c'était déménagement à la vallée d'Eitbougmel, c'était immédiat on a trouvé la bonne école.
Alors, une question quand même. C'est-à-dire, quand vous êtes rentrée au Maroc, vous ne saviez pas encore ce que vous alliez faire?
Non, on savait qu'on allait ouvrir un écologe en montagne. On n'avait pas encore. On ne savait pas où. Parce que vous connaissez bien le Maroc, c'est grand. On ne savait pas où.
Mais ça, il faut le faire. Il faut le faire, c'est-à-dire rentrer. On a une idée, voilà ce qu'on veut faire. On a envie d'ouvrir un écologe, oui. Mm-hmm. Mais combien ça va nous coûter, etc.
On ne savait pas encore.
Non, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va faire vivre notre famille? C'est l'aventure quand même.
Oui, l'idée était là et c'est vrai, on a pris un peu de risque.
Ouais.
Voilà, c'était, les raisons qui étaient derrière, c'était aussi un chemin personnel. Donc il y avait plusieurs raisons derrière qui nous poussaient à y aller. On y croyait en fait tellement fort que voilà, on n'a pas hésité.
Mais j'imagine que ce chemin personnel, c'est vrai, vous êtes un couple, vous avez fait ça à deux, mais le chemin de ce couple est composé de deux entités, de deux personnes. Vous et votre conjoint. Mais chacun son cheminement personnel, en fait. Chacun ses raisons personnelles.
Exactement.
Et il y a aussi les raisons du couple, mais il y a aussi les raisons de chacun.
Exactement, oui. Enfin, mon mari a carrément vécu un burn-out en France. Donc, c'était encore plus fort que moi.
Oui.
Donc, on allait à peu près dans le même sens. On avait conscience que le mode de consommation qu'on avait en France, il y avait aussi une espèce de mouvement où vous voyez que ça bougeait un peu partout dans le monde. Donc, ça nous a un peu encouragés et poussés à faire la démarche sans hésiter. Donc, et puis, le retour à notre pays d'origine, c'était juste évident pour nous, en fait. Parce qu'on voyait où il y avait le besoin, surtout dans les régions du monde rural, du haut Atlas au Maroc. Il y avait un besoin. Et donc, voilà. Donc c'était,
mais votre besoin c'était à vous, évident. C'était votre cheminement personnel. Votre mari, c'est
exactement,
le...
Oui. Enfin, c'était déjà passer beaucoup de temps avec ma fille. Ouais. Après, il y a eu mon fils. Moi, je suis une maman de Rim qui a 10 ans et Shadi qui va avoir 4 ans demain, inchallah. Donc, voilà, merci. Donc, je voulais vraiment passer beaucoup de temps avec eux, mais en même temps, faire profiter aussi les autres enfants de la région de Heysbougmès. Là, on est installé maintenant.
Alors.
Après, le choix de Heysbougmès, il s'est fait, et c'était au hasard, en fait. C'était un jour, je tombe sur une vidéo d'une une dame, une grande dame que maintenant, voilà, c'est devenu une source d'inspiration pour moi. C'est une Allemande qui s'est installée ici à la vallée d'Heysbougmès il y a quelques années et elle a ouvert une école d'inclusion ici de sourds. Et donc, je vois une vidéo d'elle, comment elle parle de l'école, de la pédagogie. Ça s'appelle l'école vivante. Donc, c'était une pédagogie vivante. Ils font de la permaculture, de la menuiserie, la langue des signes. C'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et puis, on l'a contactée et pour faire du bénévolat. Voilà. C'est le premier pas pour aller vers notre projet. Bah, aller vivre déjà en montagne, réellement, pas passer des vacances. Et voir ça ressemble à quoi, de se réveiller tous les jours, voilà, en montagne. Donc, on est venu, on a proposé du bénévolat, j'en fais toujours d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ma fille est scolarisée dans cette école, donc, et puis en venant, je suis tombée amoureuse des paysages de la vallée d'Heysbougmès.
C'est vraiment magnifique. Votre fille est scolarisée dans cette école-là?
Ah oui, depuis deux ans maintenant, et moi je fais toujours du bénévolat dans cette école.
Et elle aime cette école?
Elle adore cette école, elle adore parce que la dame s'appelle Eto, elle a vraiment cherché un mix un peu de pédagogie alternative, ça veut dire beaucoup de jeux, elle s'est inspirée un peu de Montessori, de Freinet. C'est vraiment surprenant de tomber sur une école comme ça au fin fond justement de l'Atlas.
Exact, comme quoi voilà, il suffit de volonté en fait.
Exactement, oui. Et puis le chemin, après, c'est venu tout seul. On a trouvé le terrain et puis on a lancé l'idée. Et puis maintenant, on a commencé la construction depuis à peu près 2 mois. Bon, là, on s'est arrêté parce qu'il fait très froid.
Oui.
Et vu qu'on a opté pour une construction traditionnelle, c'est-à-dire on pisait, on pierre et on terre, pendant la période de froid, les travaux s'arrêtent.
Alors, une question, c'est, j'imagine quand vous étiez en France avec vos deux emplois, le vôtre et celui de votre conjoint, financièrement, vous étiez très confortable. C'est vrai que vous l'avez dit, burn-out, etc. Vous êtes rentré au Maroc, vous êtes en train de lancer ce projet-là. Vous attendez, en termes de revenus, parce qu'il faut vivre, il faut faire grandir des enfants, il faut peut-être plus tard leur offrir des études supérieures ailleurs, dans une autre ville du Maroc ou même à l'étranger. Donc, il faut avoir quand même un capital pour ses enfants, notamment. J'espère que je ne vous mets pas la pression quand je dis « il faut avoir ». Je l'ai dit, après je me suis ressaisie.
Non, quand on fait ce genre de changement de choix de vie, voilà, on lâche prise là-dessus.
Yeg. Totalement. Murmura celle qui ne lâche pas encore prise. Ben oui, en fait. Mais vous savez quoi, vous m'avez tellement donné envie de ressentir cet air de moins un de la montagne maintenant que je vous parle. Mais c'est se réveiller avec moins un degré. Moi, j'adore le froid. Et ressentir ce froid, cet air frais, cet air pur, cet air naturel, ça, je vous envie maintenant. Vraiment, je vous envie.
Merci. En fait, pour revenir à ta question de pression, etc., ce qu'on offre à nos enfants aujourd'hui, c'est-à-dire le choix de les faire grandir et éduquer au milieu d'un... les mentalités sont complètement différentes. On vit vraiment dans le... C'est authentique, c'est solidaire, c'est un autre rythme de vie. Donc, voir mon fils jouer dans la boue, etc., ils sont libres, mais totalement libres. Ouais. Et je trouve que ça n'a pas de prix. Alors demain, Yasmine, on s'en fiche de demain.
Ouais.
Ils feront leur propre chemin, comme moi j'ai fait le mien, tu vois.
Absolument.
Donc aujourd'hui, ils sont heureux. Sortir, marcher dans les champs et contempler la nature qui nous entoure, ça c'est des moments qui n'ont pas de prix, que je partage aujourd'hui avec mes enfants. C'est des choses que je vis réellement, tu vois.
Donc,
demain, sincèrement, on ne pense pas. Demain, d'ailleurs, quand on était à Mohamedia, on avait fait un an de homeschooling à notre fille. Mm. Ça veut dire que nous, le cadre n'est pas aussi important que la qualité du moment qu'on partage avec nos enfants.
Ouais. Quand vous dites « on ne pense pas à demain », vous avez toujours été comme ça, justement, Rita ?
Non, pas du tout. Mmh. Là, quand j'étais, quand je prenais le métro à 6h du matin et que j'allais travailler et que voilà, j'avais les réunions du lundi du matin, non, j'ai subi un changement complètement total. J'étais vraiment dans le mode de consommation qu'aujourd'hui je vois avec beaucoup de recul, etc. Et non, c'était le déclic, c'était au moment où j'ai... C'est la crise de la quarantaine.
Oui.
Au moment où j'ai pris le temps de me concentrer sur moi-même, sur mes propres besoins, et puis en faisant abstraction du monde extérieur. Et là, je me suis retrouvée dans autre chose que ce que je vivais tous les jours pendant 18 ans en France, quand même.
Ouais.
Donc, voilà.
Mais justement, crise de la quarantaine, est-ce qu'on n'a pas peur de se réveiller, de se dire oh, « c'était une crise, c'était qu'une crise ». J'ai transformé ma vie, mais c'est pas une question que je vous pose, en fait. Je réfléchis à voix haute.
Écoute,
on peut réfléchir ensemble.
sincèrement, j'y pense même pas, la vérité. J'y pense pas parce que, voilà, c'est beau ce que je vis aujourd'hui. Mmh. Je me sens vraiment libre. Tu sais, quand tu sors du monde de l'entreprise, des contraintes, etc., c'est une liberté, c'est un autre goût encore. Mais il faut le vivre pour le connaître.
Ouais.
Donc, c'est complètement évident. Et c'est vrai, on s'est lancé dans un projet alors qu'on n'avait même pas l'argent pour dire ça. C'est un appel que je fais à toutes les femmes au Maroc qui veulent se lancer dans un projet. Il suffit d'avoir juste l'idée d'y croire. L'argent, c'est vraiment pas un problème. Vraiment. Mm. C'est vraiment pas un problème. Donc, nous, quand on a pensé à faire INA, on a plus pensé à un lieu où les gens peuvent participer avec nous à améliorer les conditions de vie des habitants du Haut Atlas et notamment la vallée où on habite aujourd'hui, Ait Boghmass. Donc, on a inventé un système, je ne sais pas si tu l'as vu dans le site internet de l'INA Ecolodge. Mm. Ces gens qui veulent nous aider à réaliser en fait ce lieu, parce que c'est pas seulement une activité touristique, en fait l'activité touristique est là pour nous aider à financer en fait des ateliers qu'on veut faire avec les jeunes de la vallée. C'est-à-dire que moi, vu ma formation, je voudrais proposer des ateliers, par exemple, d'initiation à l'outil informatique, de programmation. Mon mari est artiste, donc il voudrait faire des ateliers de théâtre, on voudrait inviter des artistes qui puissent venir partager aussi leur savoir ici avec les jeunes de la vallée, pour essayer de les ouvrir un peu, leur ouvrir les voies du monde et leur montrer qu'il y a d'autres manières de vivre aussi. Donc, on voudrait aussi surtout créer un lieu culturel ici, au fin fond de la vallée de Ait Boghmass.
Alors, juste une question quand même. Entre-temps, vous vivez comment ?
Alors, entre-temps, quand on est rentré, mon mari est artiste et il a travaillé un peu à la radio quand on a habité à Mohammedia. Mmh. On est venu avec un peu d'économie, pardon, de France, ses 18 ans, voilà, de France. Mon mari, vu qu'il est artiste, donc il peut faire du télétravail, il écrit des scénarios, donc voilà, on vit comme ça. Mais bien évidemment, le niveau de vie qu'on avait en France, ça n'a rien à voir avec le niveau de vie qu'on a ici.
Mais la sérénité est différente.
Exactement, oui. C'est-à-dire que on s'est passé de plein de choses qui étaient indispensables à l'époque pour nous, mais aujourd'hui, ce sont vraiment des petits détails.
Comme quoi, par exemple?
Avoir une voiture, par exemple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir une voiture. On marche dans un paysage tellement magnifique, on n'a plus besoin d'avoir une voiture. Des vacances, on peut très bien faire des randonnées au Maroc et passer d'excellentes vacances à moindre coût. Même la consommation de tous les jours, ici, c'est différent. Il n'y a pas de fast-food, pas de restaurant. C'est vraiment un autre rythme de vie.
Mais qu'est-ce qui vous manque?
Beaucoup plus sain que celui qu'on avait en ville.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de votre ancienne vie, Rita?
Quelque chose qui... Il y a des moments, évidemment. Il y a des moments où, on a des... où j'ai envie de manger un bon chocolat chaud.
Ouais.
Tu vois. Mais franchement, c'est des petits détails. Ça arrive, hein, ça arrive. Mais, ou d'offrir un massage, mais vraiment
c'est
des
ça,
petits
ouais,
détails.
Ouais, ouais.
Quand on s'en passe sans problème.
Ça, on s'en passe sans problème, absolument. Ça reste
détails. Oui,
dans...
évidemment. Ouais.
C'est ça. Par rapport à ce bien-être général, en fait. Comme vous dites, c'est
exactement.
Des détails. La crise de la quarantaine, justement. Chez vous, elle s'est déclenchée comment? À quel moment vous avez su que je dois remettre en question ma vie?
C'est lié essentiellement à la... Quand ma fille a intégré l'école en France. Le matin, je l'ai déposée chez la nounou parce que voilà, je commençais tôt. La nounou l'a déposée à l'école, elle mangeait à la cantine. Après, elle allait au centre de loisirs et je la récupérais vers 19h30, 20h. Donc, il fallait lui donner la douche, manger et dormir.
Et la mettre au lit, ça fait.
Donc là, à un moment donné, c'était plus possible. Je voyais que je passais à côté de quelque chose de magnifique. Que ma fille était en train de grandir et que je ne profitais pas de moments de partage avec elle. Donc ça, c'était un grand déclencheur, la vérité. Et la deuxième partie, c'était ce qu'on voit autour de nous. On ne peut pas négliger le changement climatique, les petites crises un peu qui se déclenchent un peu partout dans le monde suite à notre comportement, le comportement de l'humain. Donc c'était ça aussi qui a participé prendre ses décisions pour changer de vie.
Changer de vie.
Exactement, oui.
L'entourage n'a pas essayé de vous en dissuader? Si.
Évidemment, oui. Évidemment, parce que... Enfin, c'était ça aussi le challenge, c'est que comment gérer ces moments de... En fait, on avait des réactions qui étaient un peu... Il y avait des gens qui étaient émerveillés par notre choix. Waouh, c'est magnifique, etc. Mais une bonne partie de la famille ne comprenait pas trop. Ils nous prenaient un peu pour des fous. vous étiez en France, etc. Vous rentrez au Maroc, au fin fond de l'Atlas, un petit village. Et si vous arrivez ci ou ça, etc. Mais en fait, mais avec le temps, maintenant, au bout de la deuxième année, plus ils viennent nous voir, par exemple, en vacances, etc., plus je vois qu'ils changent d'avis. Parce qu'ils voient que c'est la peur. Voilà, c'est ce qui
bien
nous
sûr, la peur de l'inconnu.
D'avancer dans la vie, exactement.
Ouais,
la
peur de l'inconnu.
Mais en fait, non, en fait, c'est vraiment... Même moi-même, des fois, il y a des moments de doute.
Oui, bien sûr.
C'est normal, surtout quand on a des enfants, c'est pas évident. Mais voilà, c'est ça le challenge, c'est vraiment comment gérer ces moments de doute, et en tirer aussi des apprentissages de ces moments de doute. Parce que ça, on dit beaucoup sur ce qu'on est réellement à l'intérieur. Donc, on a eu pas mal de réflexions, mais avec le temps, ça y est, ça s'estompe. C'est comme tout. Ça s'estompe avec le temps.
Alors justement, ça veut dire quoi, cette expérience-là? C'est pas une expérience pour la vie, c'est un moment de la vie. Vous êtes ouvert en tant que couple et vous êtes ouverte en tant que femme à vous observer également évoluer et observer vos besoins évoluer.
Exact, oui. Exact. Quelque part, on a laissé on a mis un peu nos peurs de côté et on a ouvert la porte en fait à l'univers. On s'est laissé porter par ce qui arrive. C'est Après, ça vient aussi, je pense, avec l'âge. Hein. Quand on réfléchit, on mûrit finalement avec les expériences de la vie et on se laisse porter, on fait ce qu'on a envie de faire. On s'écoute un peu plus, en fait, si tu veux, à l'intérieur.
Absolument.
En tant que femme, en tant que maman, en tant que voilà, Marocaine qui souhaite changer des choses, qui souhaite améliorer un peu... participer en fait dans le changement de là au Maroc. Maintenant, on voit des petits changements un peu partout. J'ai l'impression que le Maroc va dans le bon sens, alhamdoulilah. Et puis moi aussi, j'ai envie de planter ma graine, si tu veux. J'ai aussi envie de participer à ce changement, à cette amélioration de conditions. Et l'éducation et les enfants, je trouve que c'est la base, en fait. Ce sont les Marocains de demain.
Bien sûr.
Si on peut changer un petit truc dans leur chemin, si on peut leur montrer qu'il y a d'autres possibilités, que, voilà, on peut les ouvrir un peu sur le monde extérieur, bah, j'aurais participé d'une manière ou une autre au changement que je souhaite avoir. Blaise, tout simplement.
Vous vous êtes fait des amis au sein de la vallée?
Oui, parce que...
Le contact humain est facile.
Franchement, à la vallée d'Aït Bourgmaz, les gens sont très ouverts. Ici, le tourisme de montagne a commencé il y a très longtemps. Ils sont dans les années 70, d'après ce qu'on m'a dit. Donc, ils sont habitués à voir des étrangers, des gens venir un peu de partout. Donc, alhamdoulilah, socialement parlant, on n'a pas eu de problème. Ma fille, au bout de 6 mois, elle commençait à parler amazigh sans problème.
Magnifique.
Donc, j'ai une amie suisse, par exemple, qui s'est installée ici depuis 1 an et demi, qui fait aussi du bénévolat à l'école.
Mais les locaux, ils ne se sentent pas envahis par cette nouvelle, ces nouveaux arrivants qui sont en quête de nature, qui sont différents, qui réfléchissent différemment, qui s'habillent différemment, qui mangent peut-être différemment. Les locaux ne se sentent pas un peu envahis dans leur espace?
Non, je sais pas, c'est pas l'impression que j'ai. Tant que ça se fait en douce et dans le
respect.
On est quand même là, on respecte, oui. Voilà. Par exemple, moi, je ne m'habille pas à la vallée comme je m'habille en ville. Donc, on respecte quand même leurs traditions, leurs valeurs. On est intégré, on est invité à leur mariage. Donc, quand il y a un respect mutuel, ça se passe très, très bien. Maintenant, on n'est pas là pour les choquer ou les secouer ou pour les. Ils ont leur conditionnement, nous, on a le nôtre. Donc, il y a des changements qu'on ne peut pas faire non plus. Donc, ça se passe dans le respect mutuel et ça se passe très bien.
Rita Yousfi Ziyad, merci beaucoup d'avoir accepté d'être ma femme d'aujourd'hui. Je compte sur vous pour nous donner des nouvelles de votre écologe. C'est prévu pour quand, Inch'Allah?
Alors, ça dépend des jouets. Vu qu'on a ouvert un peu la participation aux gens qui veulent participer à la création de ce lieu. Donc, contrepartie de 2000 dirhams par nuit. On peut profiter d'une nuitée gratuite à vie. Ça, c'est l'idée qu'on a eue. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à financer notre projet. Donc, ça dépend de l'arrivée des jouets. Et mahbab jouets, voilà.
Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a quand même un deadline que vous vous êtes posé?
Normalement, c'est à la fin de cette année, Inch'Allah, les travaux seront finis. Inch'Allah. Donc, voilà.
D'ici l'été prochain.
On reprend les travaux mi-février. On attend que le climat s'adoucisse un peu. Puis normalement, ça sera fini fin d'année, Inch'Allah. Ça sera fini, Inch'Allah.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de courage. On se tient au courant pour la suite.
Mais avec plaisir, Mahba. Merci à toi de t'être intéressée à la région des Aït Bourgmaz, parce que aujourd'hui, je suis une femme du monde rural.
Oui.
De la vallée d'Aït Bourgmaz et aussi à notre initiative qui est une écologe. Et puis voilà, je souhaite bonne continuation à ton podcast.
Merci, merci infiniment Rita.
Merci. Bonne journée à toi. Merci.
Également. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver et surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.